Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 83e épisode. Dans cet épisode, je vais vous présenter les bienfaits des listes d'envie et de pratiques BDSM. Première partie, pourquoi cet épisode ? Le sujet de cet épisode a un lien direct avec un autre sujet que je vais traiter dans un épisode à venir qui sera dédié à la soumination. Je ne sais pas si ce sera l'épisode prochain, mais en tout cas ce sera dans les épisodes qui viendront bientôt, en fonction de mon inspiration du moment. Dans cet épisode consacré à la soumination, je vous donne pas les détails sur ce que c'est, on y reviendra. Il y a beaucoup de critiques d'un certain nombre de choses, de comportements, etc., parmi lesquelles on trouve des critiques notamment de l'utilisation, plus précisément de l'abus d'utilisation, de listes d'envies, c'est-à-dire on jette au visage des gens des envies dès qu'on se rencontre. Je vais en parler tout à l'heure. Le souci, c'est que dans un certain nombre d'articles, dans les discours d'un certain nombre de personnes, parce que ces comportements sont dénoncés de façon extrêmement forte et même très exagérée, hein, j'en reparlerai dans cet épisode dédié, ça a donné un peu une mauvaise presse, au moins dans un certain nombre de milieux, dans certains forums, etc., à la notion de présenter ce qu'on aime en fait, ce qu'on veut faire. Et ça, c'est un gros problème. Du coup, ça m'a incité à faire un épisode dédié uniquement à ce sujet-là pour présenter les raisons qui, à mon avis, sont totalement légitimes et désirables pour lesquelles on peut avoir envie justement d'utiliser des listes dans lesquelles on présente nos envies, nos pratiques BDSM. Ces listes ont un certain nombre de points positifs, de bienfaits. Évidemment, comme pour tout, il peut aussi y avoir un certain nombre d'inconvénients, notamment quand on les utilise mal, et un certain nombre de limites. C'est pas magique, hein, c'est comme pour tout. C'est un outil qui peut être très pratique, mais c'est pas un outil magique. Et si vous vous rappelez des épisodes précédents où je parlais par exemple des mots d'arrêt, safe words, ou bien des philosophies de sécurité du BDSM du type SSC et RAC, vous comprenez pourquoi j'insiste sur le côté c'est pas magique, parce que beaucoup trop de choses dans le BDSM sont présentées comme étant c'est tout merveilleux, c'est magique, ça résout tous les problèmes. Donc les listes dont je vais parler aident à beaucoup de choses, mais elles ne sont pas magiques et elles ne résolvent pas tous les problèmes parce que ce serait trop simple. Vous m'excusez d'insister sur ce point-là, mais comme j'avais présenté dans ces deux épisodes précédents, c'est une tendance désastreuse du BDSM, donc je préfère être super clair et toujours répéter attention, ne prenons pas les choses trop au sérieux. Deuxième partie, un problème, vraiment ? Je vais quand même consacrer une rapide partie juste aux soucis en fait, parce que après je vais parler essentiellement des points positifs, des bienfaits. Il est évident, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que comme pour tout, cet outil, qui est un très bon outil, il peut être mal utilisé et il peut devenir dans certains cas gênant. C'est pas la faute de l'outil, c'est parce que les personnes qui l'utilisent mal et font n'importe quoi ou se comportent mal. Le problème typique, hein, que je réévoquerai en détail dans mon épisode à venir sur la soumination, c'est que vous avez un certain nombre de personnes qui, dans une démarche de rencontre, sont tout de suite très exigeantes et vous jettent tout de suite à la figure « je veux faire ci, je veux faire ça, je veux tester ci, je veux tester ça ». C'est très désagréable, ça crée évidemment des réactions très négatives, d'où la mauvaise presse qu'ont un certain nombre de personnes et de techniques, dont celle des listes. Les problèmes sont évidents, c'est désagréable d'être sollicité, etc., comme si vous étiez juste là pour fouetter ou pour ligoter, hein, c'est pénible. Et ces attitudes, vous l'avez compris déjà, je pense, montrent un problème assez répandu malheureusement, que j'ai déjà expérimenté personnellement, hein. C'est que vous avez une personne en face de vous qui fait plein de demandes, qui a des exigences, mais qui ne pose pas de questions sur vos demandes, vos exigences, vos préférences, vos envies, vos goûts, vos limites, donc c'est pénible au mieux, ça peut être très pénible ou carrément très désagréable. C'est sûr que commencer directement par demander des choses comme ça d'un coup, c'est un peu violent, évidemment. Mais tout ça, j'en reparlerai, hein, en détail dans cet épisode à venir. Cela dit, je veux vraiment insister là-dessus, c'est pas parce qu'il y a des personnes parfois qui utilisent mal un outil que l'outil en lui-même pose problème. Et j'entends bien vous montrer dans cet épisode que c'est un outil vraiment qui a sa place et qui a une vraie utilité. Troisième partie, qu'est-ce que c'est exactement qu'une liste d'envies, de pratiques, et comment ça marche, ou du moins comment ça peut marcher ? Le concept est très simple et je pense que vous l'aurez compris tout de suite. Dans un grand principe, je vais tout de suite entrer dans plus de détails. L'idée, tout simplement, c'est de lister, par écrit typiquement, hein, les choses qu'on a envie de tester ou de faire tester par quelqu'un d'autre, ou au contraire, qu'on ne veut pas faire, je vais en parler tout à l'heure, et vous avez, en plus des envies évidemment, les pratiques que vous faites ou que vous ne voulez pas faire. C'est aussi simple que ça, donc le concept est trivial. Après, il y a des subtilités, je vais entrer un petit peu plus dans les détails. Et notez que pour les côtés positifs, etc., je parlerai de tout ça dans la partie suivante. Donc concrètement, comment est-ce que ça marche? Alors évidemment, vous l'avez compris tout de suite, il y a pas mal de possibilités, mais l'idée de base est très simple. Ça peut juste être, tout bêtement, lister toutes les choses qui vous viennent en tête, que vous auriez envie de faire si vous les avez jamais faites, par exemple, que vous fassiez déjà du BDSM ou pas. Vous pouvez aussi avoir une liste séparée pour les choses que vous faites déjà, et vous pouvez aussi faire d'autres listes dans lesquelles vous mettez ce que vous ne voulez ou ne pouvez pas faire. Évidemment, il y a plein de variations possibles. Là, ce que je vous ai décrit, c'était la façon de faire la plus basique, la plus évidente, mais on peut faire des choses bien plus raffinées, bien plus intéressantes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cela dit, avant d'entrer dans tout ça, je voudrais quand même évoquer un problème, c'est que lister des envies, c'est très bien, mais surtout quand on débute, et même quand on fait déjà du BDSM d'ailleurs, c'est pas toujours évident de trouver des idées de choses qu'on veut faire. Ça va peut-être vous surprendre, mais sur des forums de sites sociaux BDSM, c'est une question relativement fréquente, c'est-à-dire des personnes qui découvrent le BDSM typiquement, et qui viennent demander conseil en disant « Voilà, avec mon ou ma partenaire, on a décidé de se lancer dans le BDSM, mais je sais pas trop quoi faire, on sait pas trop quoi faire, on est un peu perdu. » Alors en général, malheureusement, c'est assez mal reçu, parce que il y a des reproches, vous avez pas assez réfléchi, etc. Mais ça me paraît très injuste, parce que quand on découvre, c'est normal de pas avoir eu le temps de prendre du recul, de pas avoir fouillé un peu ce qui existe. C'est une vraie question légitime pour moi, c'est ça que je veux dire. Donc la première étape, avant même de commencer à constituer une liste, ça va être déjà de savoir un petit peu le genre de choses que vous voudriez faire, surtout si vous débutez. Mais même si vous faites du BDSM, parfois on peut avoir quand même de nouvelles découvertes, parce que personne ne connaît tout, et le BDSM c'est très vaste. Si vous voulez un petit coup de pouce pour commencer un petit peu à regarder des choses si vous n'avez pas encore trop d'idées, ou si vous voulez qu'on vous présente d'autres idées auxquelles vous aurez peut-être pas encore pensé, je vais vous faire deux suggestions. La première, c'est d'aller sur mon site, univers-bdsm.info. Dans la zone BDSM en général, vous trouverez un article dans la section idées et suggestions qui s'appelle « Liste d'idées de pratiques pour relations BDSM ». Comme son nom l'indique, c'est une liste, sauf que là, c'est quelque chose de très général, même si c'est basé sur ce que moi je fais, avant tout. Et cet article, c'est l'article le plus consulté de tout le site, et de loin en plus. Ce qui peut surprendre, parce que quand même, c'est super basique, si vous allez le lire, vous serez peut-être un peu déçu, parce que c'est vraiment super simple, avec juste une bête liste, comme le nom l'indique, de choses qu'on peut faire. Par exemple, j'ai indiqué par grande catégorie, parce que j'ai quand même regroupé par catégorie, des choses du genre comment faire des activités de type humiliation, comment faire des activités de type sadomasochiste, etc. Bref, j'ai regroupé, et ce sont vraiment des descriptions qui sont tellement basiques que c'est à la limite du simpliste, mais aussi simple que ce soit, et ça, ça m'a toujours étonné, il y a énormément de personnes qui vont consulter cette page. Donc il y a une grosse demande. Même pour quelque chose en apparence aussi simple, il y a une grosse demande. Donc si vous avez quelques minutes à y consacrer, je pense que vous pouvez déjà aller lire cet article, cette liste, et vous y trouverez probablement des choses intéressantes, surtout si vous êtes encore dans cette phase de « je veux me lancer dans BDSM, mais c'est pas encore super clair dans ma tête, dans nos têtes, si vous êtes dans une relation, et même si vous faites du BDSM, peut-être, éventuellement, que ça vous donnera d'autres idées, parce que beaucoup d'idées viennent un peu par imitation. Les choses qu'on invente soi-même, franchement, ça reste un petit peu limité quand même. C'est bon d'avoir de l'inspiration extérieure, c'est ça que je veux vous faire percevoir, et là déjà, vous aurez un certain nombre de choses qui peut-être vous donneront des idées. La deuxième chose que je vous propose d'aller faire, c'est d'utiliser les listes de fétiches du site social BDSM FetLife.com. Alors, si le site BDSM FetLife.com vous ne connaissez pas, j'y ai consacré un épisode, deux même, mon épisode 62, présentation du site social BDSM FetLife, et mon épisode 63 qui explique qu'est-ce que vous pourriez retirer de ce site si vous vous y inscrivez. Si vous n'êtes pas déjà inscrit ou inscrite, c'est très facile, il suffit d'une adresse email et c'est gratuit. Dans ce site, quand vous créez votre profil, quand vous le remplissez, si vous allez dans les paramètres de votre profil, il y a une option qui s'appelle « fétichisme » dans le menu à gauche. Quand vous allez là-dedans, vous pouvez sélectionner des fétiches. Alors, le terme utilisé par FetLife est trompeur, faut pas croire que ce sont vraiment des fétiches. Ce qu'ils appellent fétiches, remplacez ça par des pratiques, ou BDSM, ou fétichistes, ou plein d'autres choses qui sont plus ou moins reliées au BDSM. Des pratiques sexuelles au sens large, si vous préférez. Par exemple, sur le profil que j'utilise actuellement, j'ai mis bondage, domination, fessée, fouet, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous propose des dizaines de milliers de possibilités. Certaines sont très spécifiques, hein. C'est super bizarre parfois. Et là, ça vous donnera vraiment une étendue de choix qui est immense. Je pense que ça doit être l'endroit sur Internet où il y a le plus grand choix groupé en un seul endroit de pratiques comme ça qu'on peut faire. En comparaison, ma liste, elle est ridicule, mais dans ma liste, je faisais un choix, le choix de présenter les choses, disons, les plus courantes en général. Là, vous avez de tout, y compris des choses vraiment surprenantes. Donc ça, ça peut vraiment vous donner beaucoup d'idées. Et si vous explorez un petit peu le site et que vous allez voir les profils d'autres personnes, vous pourrez voir, pour un certain nombre de personnes qui ont rempli cette section fétichisme, différents choix, et ça peut aussi vous donner des idées. Ça peut même vous faire découvrir des choses que vous saviez pas du tout qui pouvaient exister dans le domaine du BDSM. Et vraiment, je vous assure que des fois, ça surprend. À partir de maintenant, je vais donc présumer que vous avez ou que vous allez trouver un certain nombre d'envies ou de nouvelles envies si vous faites déjà du BDSM, et vous allez pouvoir enfin construire votre liste, parce que si elle est vide, c'est pas très intéressant. À mon avis, il y a plusieurs stratégies possibles. Tout à l'heure, je vous ai présenté la plus simple, qui consiste juste à simplement lister sur une feuille les choses que vous voudriez tester, que ce soit des choses qu'on vous fait subir ou que vous faites subir à quelqu'un, mais quand même, c'est pas aller tout à fait assez loin de faire comme ça. Alors, il existe pas mal d'autres possibilités, avec notamment des tableaux et des choses comme ça. Quand vous faites une liste comme ça, vous avez plusieurs problèmes. Vous avez 1. Est-ce que ce dont je parle, c'est une envie ? Est-ce que c'est 2. Une pratique que vous faites déjà ? Ensuite, vous avez deux autres points potentiels. Vous pouvez indiquer en troisième partie le type d'intensité qui vous intéresse, ce qui est optionnel. Et en quatrième partie, quelque chose qui me paraît vraiment important, et dont je vais reparler en détail tout de suite, c'est que vous pouvez aussi lister les choses que vous ne voulez peut-être pas faire ou sur lesquelles vous avez des hésitations, et les choses que vous ne voulez vraiment pas faire, vos limites, si vous préférez. Donc là, vous voyez, si on rajoute ces autres considérations, votre petite liste simple de tout à l'heure, elle va forcément évoluer vers quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, parce que pouvoir séparer les envies des pratiques, c'est déjà très important, mais pouvoir dire, est-ce que quelque chose vous intéresse à un niveau simple où vous voulez faire des choses extrêmes, et surtout pouvoir indiquer les choses que vous ne voulez pas faire, c'est très utile. Je vais y reparler dans la partie suivante de pourquoi tout ça c'est hyper utile. Au final, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir une espèce de tableau, en fait. Vous voyez, vous êtes obligé d'en arriver plus ou moins à un système avec un petit tableau, simple, hein, bien sûr, dans lequel vous allez avoir des colonnes avec qu'est-ce que vous voudriez faire et les différents paramètres que je viens de dire. À mon avis, ce que vous pouvez faire, c'est la chose suivante. C'est vraiment super bateau. La première colonne avec le nom de la pratique. Alors évidemment, il faut préciser cette pratique si vous voulez la faire à quelqu'un ou si vous voulez la recevoir ou les deux. Je l'avais pas dit volontairement tout à l'heure, mais si vous, ce qui vous intéresse, c'est de donner une fessée, faudra marquer donner une fessée parce que recevoir une fessée, évidemment, c'est pas la même chose du tout. Et dans une autre colonne, ça peut être optionnel, mais je verrai bien noter le niveau donc qui vous intéresse. C'est très difficile de mettre un niveau quand vous parlez d'une envie. Méfiez-vous de ça. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. C'est très difficile, c'est même impossible de savoir comment quelqu'un réagit quand on fait une pratique, que ce soit en la donnant ou en la recevant. Je vais prendre l'exemple du fouet, même si c'est un petit peu réducteur. Vous pouvez avoir de grosses surprises. Et pas seulement pour la personne qui reçoit les coups de fouet. Parce que ça, c'est la chose évidente. Vous vous dites, c'est super, j'ai vu une vidéo BDSM où quelqu'un recevait des coups de fouet, j'ai envie de faire la même chose. Et quand on passe à l'action, des fois on a des surprises, parce que ce qui paraissait super dans la vidéo avec des gens qui sont peut-être beaucoup plus résistants, ça peut avoir été très trompeur parce que quand on passe à l'action, des fois on s'aperçoit que, oups, même une petite fessée, c'est déjà la limite. Faut pas sous-estimer cet avertissement parce que, bien que je sois super méfiant et prudent, ça m'est arrivé de rencontrer des filles comme ça qui s'imaginaient plein de choses et qui, au moment où on a commencé à faire concrètement les choses en question, du genre fessé, s'apercevaient que, ouh, finalement, je peux pas. Ça arrive, même quand on fait attention. Donc beaucoup de personnes, de façon naturelle, n'arrivent pas à juger à l'avance, et c'est normal, je vois pas comment on pourrait le faire de toute façon. Donc des fois on a des surprises, faut garder ça en tête. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, donner aussi ça pose des problèmes. Vous pouvez très vite vous apercevoir que ça paraissait super en voyant quelqu'un le faire dans une vidéo porno BDSM, et au moment où vous le faites à un ou une partenaire, et là vous vous sentez gêné, c'est pas si simple. Ça aussi, ça arrive vraiment. Hein. J'ai des anecdotes, parfois elles sont un peu marrantes, de personnes comme ça qui finalement, au dernier moment, ne savaient rien faire parce que c'était super dans la vidéo, mais les fantasmes, c'est pas la vraie vie. Et des fois, quand on est au pied du mur, on s'aperçoit que, ah, finalement, ça me plaît plus, ou bien j'en suis pas capable pour telle ou telle raison. Tout ça, c'est parfaitement normal, hein, je veux dire. Donc, avoir des envies, faut vraiment garder en tête ça, hein. C'est vraiment, vraiment très important de se rappeler. On essaie de juger le fantasme, est-ce qu'on aimera les choses peut-être un peu fort ou pas, mais faut garder à l'esprit que ce n'est qu'une fois qu'on a essayé qu'on peut vraiment savoir ce qu'on est capable de faire, qu'on soit la personne qui donne ou la personne qui reçoit. C'est super important. Ensuite, évidemment, vous avez les côtés pratiques, où là, vous avez déjà pratiqué, donc là, par contre, vous pouvez aisément indiquer, puisque vous avez déjà eu des expériences, quelles sont les intensités qui vous plaisent en fonction de telle pratique. Certaines, peut-être, vous aimerez le faire légèrement, certaines, vous aimerez le faire de façon intense ou extrême. L'intensité, ça me paraît utile, mais si vous n'arrivez pas à le remplir, c'est pas grave, hein. C'est pas le point majeur, même si ça peut être très utile, j'en reparlerai dans la partie 4. Après, il y a le problème que j'avais évoqué de comment distinguer les choses sur lesquelles vous avez des hésitations ou qui sont des choses que vous ne voulez pas faire, qui sont des limites pour vous. Alors là, vous avez deux solutions. La première solution, ce serait tout simplement d'ajouter une colonne dans laquelle vous indiquez un point d'interrogation, par exemple, pour dire « je suis pas trop sûr, j'ai jamais trop essayé, mais faut voir, ça dépendra de l'humeur du jour, de la personne avec qui vous le ferez, des circonstances. » Et par contre, si vous voulez vraiment pas faire quelque chose, si c'est un non, soit vous le mettez dans cette colonne-là, soit vous mettez une colonne à part. Mais je dois vous dire que personnellement, en ayant réfléchi à ça, je pense que c'est mieux de faire une liste séparée. Une liste séparée dans laquelle vous mettez clairement que ce sont des choses qui soit sont des points d'interrogation, peut-être, à voir, je sais pas, et éventuellement même une autre liste séparée pour les choses que je ne veux pas faire. Et je me répète, mais ça peut être des choses du type qu'on reçoit, comme par exemple des coups de fouet, hein, pour être basique, mais aussi des choses qu'on donne, comme par exemple des coups de fouet, parce qu'il y a des gens, ils aiment pas le SM, et il y a des gens que ça dérange beaucoup de donner un coup à quelqu'un, ce qui est totalement légitime, hein, je reviens là-dessus. Il y a plein de personnes qui font du BDSM et qui n'aiment pas, par exemple, le côté SM. Mais ça peut être aussi, j'aime pas le côté bondage, ou j'aime pas les mots crus, par exemple, tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Tout ça, c'est normal, je me répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais dans le BDSM, chacun choisit ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire en fonction de ses goûts, et c'est parfaitement légitime de pas aimer des choses et de pas vouloir faire un certain nombre de choses. Il y a rien d'obligatoire ou de, entre guillemets, normal dans le BDSM. Et l'exemple le plus frappant, hein, qui surprend souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout le SM, le sadomasochisme, et qui n'en font pas du tout. Ça surprend parce que le BDSM, quand même, c'est essentiellement dans les images, les visions qu'ont les personnes dans leur tête et dans les fantasmes, associé à quoi? Le bondage, les attaches, et le sadomasochisme, les coups de fouet, la fessée, ce genre de choses. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent pas du tout le SM. Donc faut vraiment pas se priver, hein. Si vous ne voulez pas faire ci ou ça, vous le dites, et c'est pas un problème. Donc là, ce que je vous ai proposé, ça va consister donc essentiellement à avoir trois listes. La liste des choses qui vous intéressent vraiment, avec éventuellement leur intensité, et éventuellement deux listes probablement plus petites, dans lesquelles vous dites le genre de choses que vous pensez peut-être pouvoir faire, ou sur lesquelles vous avez des hésitations, et celles que vous voulez vraiment pas faire. Je trouve que c'est plus clair de les séparer, hein. Il existe d'autres stratégies. Si vous allez sur le site FetLife, dont j'ai parlé tout à l'heure, eux, ils utilisent une autre façon de faire, une autre approche. Dans leur approche à eux, c'est différent. Pour chaque pratique, ils proposent de différents choix, donc de dire si ce qui vous intéresse, c'est de donner ou de recevoir. Tout à l'heure, j'ai dit donner la fessée ou recevoir la fessée, mais eux, évidemment, sur un site internet, c'était plus simple de mettre fessée et ensuite de proposer des choix. Donc ils proposent donner, recevoir, mais ils proposent aussi des choix qui peuvent plus surprendre, comme j'aimerais bien regarder, ou bien j'aimerais bien porter quelque chose quand il s'agit de vêtements, de choses comme ça, ou encore tout m'intéresse. Et là, ce qu'ils veulent dire, c'est ça m'intéresse aussi bien de donner que de recevoir ou que de regarder. Et ils ont une autre option qui, elle, est « je suis curieux à propos de quelque chose », donc curieux de donner, recevoir, regarder, etc. C'est-à-dire, là, vous voyez, ils ont bien distingué la pratique, ce que vous faites vraiment, des envies sur lesquelles, évidemment, ça permet de signaler « je l'ai pas fait, mais peut-être que je voudrais explorer avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire ». Donc vous voyez, c'est une approche un peu différente, mais au final, on s'y retrouve quand même, hein. C'est juste que la façon de présenter les choses est différente. Je voulais quand même vous l'expliquer, parce que si vous allez sur le site FetLife, vous allez trouver cette façon de faire, ça pourrait vous surprendre. Si vous voulez plus de précisions sur le site FetLife, je vous suggère d'aller lire mon article de présentation, qui se trouve dans la zone débutant, dans les sites web intéressants, ça s'appelle « Présentation de FetLife, créer votre profil, bien utiliser le site ». C'est un article très complet avec énormément de captures d'écran qui vous montre comment on remplit un profil et qui vous montre, entre autres, une liste de fétiches d'un membre, c'est-à-dire j'ai pris mon propre profil comme exemple. Ça vous donnera, avant de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, une bonne idée de comment ça fonctionne. Maintenant que je vous ai expliqué quelques pistes pour créer une liste d'envies et ou de pratiques, vous allez vous poser la question, c'est très bien d'avoir fait cette liste, mais pourquoi est-ce que je l'ai faite? À quoi elle va me servir exactement? Je vais répondre à ça tout de suite. Quatrième partie, l'utilité des listes d'envies et de pratiques, les points positifs. Alors franchement, je pense que ces listes ont vraiment du sens, surtout quand on est dans le cadre d'une démarche de faire des rencontres, que ce soit des rencontres ponctuelles, d'aller dans des clubs, des choses comme ça, des personnes qu'on rencontre à un hôtel après avoir fait connaissance sur Internet, ou en réel, ce genre de choses, ou dans une démarche de plus longue durée pour trouver une partenaire. Quand on est déjà avec un ou une partenaire, ça me paraît un peu moins intéressant, mais ça peut quand même avoir une certaine utilité. Alors la première chose, le premier intérêt, pour moi en tout cas, c'est un intérêt qui est trop souvent oublié, en fait je crois qu'il est à peu près jamais évoqué, et c'est particulièrement important quand on débute le BDSM, quand on veut se lancer, quand on connaît pas encore, quand on n'en a pas vraiment fait, c'est tout bêtement de faire une réflexion en amont, histoire de noter tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passe par la tête, peut-être des choses que vous venez de voir dans une vidéo porno, ou des choses au contraire qui datent d'il y a très longtemps et que vous avez dans votre tête, dans vos fantasmes depuis longtemps, bref, les choses qui vous plaisent déjà, avant même d'aller faire la recherche que je vous ai suggéré tout à l'heure, d'aller sur mon article qui les liste, ou bien d'aller sur le site FetLife, déjà vous pouvez commencer par noter tout ce qui vous passe en tête. La raison, elle est double. D'abord, c'est de réfléchir un peu à est-ce que ça va vraiment me plaire, est-ce que ça va vraiment m'intéresser, ou est-ce que c'est clairement du fantasme et honnêtement, je tiens pas vraiment à le faire. Ça va vous permettre de réfléchir un petit peu à ça, donc de prendre un peu de recul déjà, parce que c'est important. C'est vraiment important, plus on a de recul, plus on a d'assurance, vous voyez, plus on a de réflexion, plus on est sûr de soi, plus c'est facile quand même. Donc quand on débute, ça peut être très utile de déjà décanter un peu les choses, vous voyez, de pas avoir juste des vagues idées un peu floues et après on est un peu perdu. Et ce que je viens de dire amène à un point suivant, c'est ça vous permettra de pas les oublier au moment venu. Parce que ça, c'est un gros problème qui se pose un peu pour tout le monde, c'est on a par exemple vu une vidéo, un film, lu un manga adulte, quelque chose comme ça, on voit quelque chose de très sympa qui fait tilt, et après, 6 mois, 1 an plus tard, on essaie de se rappeler qu'est-ce que c'était exactement, il y avait quelque chose que j'avais vu qui était super sympa, j'arrive pas à me rappeler où, ça c'est très énervant. Donc pour éviter ce genre de déconvenue totalement absurde mais qui arrive vraiment souvent, c'est très utile de noter, éventuellement de noter où on a vu les choses en question, ça aide donc, je viens de le dire tout à l'heure, à réfléchir, décanter tout ça, prendre du recul, mais ça permet aussi d'en parler avec quelqu'un si vous trouvez quelqu'un qui est intéressé pour faire du BDSM, que vous essayez de draguer, ou si vous vous faites draguer. Parce que il y a rien de plus frustrant que de se dire, au moment où on est dans la conversation, « Ah, j'ai un blanc, j'ai tout oublié », parce que quand on est dans la conversation, même si c'est juste un chat ou par email, il y a un stress quand même, bien sûr, et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit « Flûte, j'ai tout oublié à cause du stress ». Là, c'est super utile d'avoir une liste, même si elle est juste posée devant vous. Surtout si vous êtes au téléphone avec quelqu'un, là, c'est super rassurant de savoir « Oui, je sais les genres de choses qui m'intéressent ». Donc quand la personne évoquera, par exemple, le bondage, vous avez sous la main la liste qui vous permet de bien vérifier ce que vous en pensiez jusqu'à présent. Le bondage est un mauvais exemple, parce que c'est tellement classique que probablement que là, vous sauriez si ça va vous plaire ou pas. Mais c'était juste pour donner un exemple. En résumé, de façon super simple, les paroles, les lectures, les idées, tout ça, ça s'envole, les écrits, eux, ils restent. Et comme ça, vous les oublierez pas au moment où ce sera utile et important de les avoir sous le coude. Donc vous voyez, c'est vraiment une utilisation totalement évidente, mais pour moi, ça peut vraiment aider. Un deuxième point positif, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant du site fetlife.com, c'est que en allant regarder des listes d'autres personnes qui les ont par exemple ajoutées sur leur profil, ça peut déjà vous donner de nouvelles idées, de choses à explorer, des choses auxquelles vous auriez pas pensé, mais aussi des choses que vous n'auriez pas osé évoquer. Ça c'est important. C'est un problème classique, Il y a énormément de choses dans le BDSM qui sont un peu embarrassantes. Il y a des sujets qui sont encore très tabous, il y a des sujets qui sont difficiles à aborder, et il y a des sujets sur lesquels on s'en fait une montagne, jusqu'au moment où, en allant regarder ce que disent les autres, ce que pensent les autres, ce que font les autres, vous vous apercevez, ah mais en fait, je suis pas seul. Et ça, c'est très encourageant. Donc c'est un point positif vraiment important et qui ne doit pas être sous-estimé, hein, parce que même dans les messages que je reçois sur mon site, hein, j'en reçois comme ça des gens qui me disent « j'ai peur de faire ci » ou bien « je suis embarrassé de faire ça, est-ce que je suis normal, est-ce que c'est ceci, cela », vous voyez. C'est quelque chose que je reçois assez régulièrement, ça. Savoir que vous n'êtes pas seul, c'est très rassurant et ça permet d'ouvrir le dialogue, parce que si vous avez trop peur d'en parler, c'est impossible de parler avec un ou une future partenaire, évidemment. Et ça, c'est bloquant. Si je parle dans le cadre de rencontre, c'est-à-dire vous avez une démarche de rencontre, vous êtes en train de draguer ou de vous faire draguer, un intérêt de ces listes, surtout si vous les mettez sur votre fiche de profil, c'est vraiment tout simple, c'est de poser clairement donc vos goûts, vos envies, vos pratiques, bien sûr, vos interrogations, vos hésitations et vos limites, très important. Parce que tout ça, ça va évidemment aider à communiquer. Et ça va avoir un autre intérêt super important, qui est tout simple, évident, mais auquel on pense pas toujours, c'est que ça évite de draguer les personnes qui sont incompatibles. Prenons le site social BDSM FetLife. Si vous êtes en train de chercher un ou une partenaire sur le site, vous tombez sur un profil intéressant. Qu'est-ce que vous regardez? La première chose que vous regardez, c'est si la personne est en démarche de recherche. Parce que le site FetLife n'est pas un site de rencontre. Si cette personne indique « je suis en train de chercher un ou une partenaire », la question suivante, c'est « est-ce que cette personne, elle est compatible ?» Parce que, prenons un exemple basique. Si vous êtes gay, vous n'avez pas envie de chercher quelqu'un qui est hétéro. Si vous êtes hétéro, vous n'avez pas envie de chercher quelqu'un qui est gay. Donc, toutes les informations sur un profil sont très importantes. Vous avez l'orientation sexuelle, je viens d'en parler, mais quand on est dans un contexte BDSM, vous avez les penchants BDSM. Par exemple, si vous, ce qui vous intéresse, ça va être le bondage, ou plus précisément le shibari, si vous tombez sur le profil de quelqu'un qui ne dit pas avoir des intérêts de ce type-là, vous savez déjà qu'il y a de fortes chances que ça marche pas. Si ça, c'est votre focus, si c'est ce qui vous intéresse vraiment, c'est mal parti avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça. Dans certains cas, vous pourrez même avoir la personne qui dit « je n'aime pas ça, je veux pas en faire ». C'est une limite, par exemple. C'est très pratique de le savoir tout de suite, parce que ça vous évite au moins la déception énorme d'avoir commencé à draguer, ou de vous être fait draguer, et puis après pas mal de discussions, on s'aperçoit « ah, en fait, on n'est pas compatible, on cherche pas du tout les mêmes choses, donc ça tombe à l'eau ». Je sais que c'est quelque chose de totalement évident et absurde, hein, tellement c'est évident, mais franchement, pour moi, c'est un des meilleurs usages de ce genre de choses, parce que ça évite de tomber sur des personnes qui sont totalement opposées à ce qui vous intéresse. Il y a d'autres critères, hein. Par exemple, si vous allez sur des sites comme FetLife, donc vous avez aussi des critères généraux du genre les rôles, ça vous permet de savoir si la personne s'intéresse plutôt à, par exemple, la domination ou la soumission, au bondage ou à différentes autres choses de ce genre, mais c'est très global, ça aide beaucoup, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est trop générique. Si vous, ce qui vous intéresse après, c'est tel et tel type de pratique, c'est mieux de savoir tout de suite que la personne déteste ça. Et c'est d'autant plus intéressant quand vous avez des demandes, des envies, qui sont un petit peu hors des plus grands classiques. Par exemple, la fessée, c'est pas très difficile de voir les personnes qui aiment pas ça. Si vous regardez quelque chose de beaucoup plus spécifique, prenons par exemple le fétichisme du sang, les vampires par exemple, oui ça existe, les vampires BDSM ça existe, et ben ça c'est quelque chose de très spécifique et c'est drôlement plus tendu de trouver des personnes qui sont intéressés par ça. Du coup, si vous trouvez dans une liste quelqu'un qui dit « je m'intéresse aux pratiques de, entre guillemets, vampire BDSM », ça change tout. Et bien entendu, vous avez plein d'autres pratiques, au contraire, les personnes vont vous dire « oulala, ça je veux absolument pas en faire », ça évite vraiment des malentendus, hein, et beaucoup de pertes de temps des deux côtés, et beaucoup de déceptions des deux côtés. C'est pour ça que personnellement, je pense que c'est vraiment très utile. Après, de façon générale, et là, c'est aussi valide quand on est en couple déjà, et pas juste dans une démarche de drague, de rencontre, je pense que un des grands points positifs de ces listes, c'est aussi de pouvoir aider pour de meilleurs échanges, pour simplifier les choses, parce que c'est beaucoup plus simple de se référer à des listes plutôt qu'essayer de se rappeler désespérément au moment soit où vous rencontrez quelqu'un dans un resto, par exemple, soit même avec votre partenaire, de vous rappeler exactement qu'est-ce qui vous motiverait, qu'est-ce que vous avez vu récemment, etc. Ça aide, plus ou moins bien sûr, d'avoir posé les choses, d'avoir pris du recul, hein, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure. Bref, ça rend les échanges plus simples, plus faciles. Et dans le cadre des rencontres, ça rend les, entre guillemets, négociations, pour utiliser un grand mot, beaucoup plus faciles aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, ça vous évite déjà de tomber sur des profils de personnes qui disent, par exemple, « je déteste telle ou telle chose », donc là vous n'allez pas aller solliciter ces gens-là pour éviter de les embêter, mais si on peut confronter, entre guillemets, les listes d'envie de deux personnes, ça peut quand même aider. C'est pas un outil parfait et magique, bien entendu, ça résout pas tous les problèmes, mais au moins vous pouvez lister comme ça, regarder ce que dit l'autre personne et dire « ah c'est bien, tu t'intéresses à ça, 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 ah bah moi aussi, super ». Dans le cas d'un couple, par exemple, mais aussi donc dans le cas des rencontres, il y a un autre point, c'est que, je viens de le sous-entendre, ça va diminuer les incompréhensions, les oublis, les problèmes de communication. Ça, c'est un gros avantage, qui est trop souvent sous-estimé. Je sais bien que beaucoup de personnes interprètent ça, j'en reparlerai lors de mon épisode à venir sur la soumination. Beaucoup de personnes interprètent ces listes comme étant quelque chose de grossier et qu'on veut essayer d'imposer aux autres, etc. Mais il n'y a pas de raison que ce soit utilisé comme ça. Avoir quelque chose posé sur du papier ou sur l'ordinateur, ça peut vraiment, vraiment aider à minimiser les problèmes de communication. Parce que, surtout si vous êtes dans une démarche de drague, c'est pas évident d'avoir en tête au moment de la conversation, quand vous êtes dans le café, etc., vous êtes sûr que vous allez oublier des choses. Si vous avez au moins révisé, entre guillemets, votre liste, parce que vous n'allez peut-être pas la sortir pour la mettre sous les yeux de la personne, mais au moins que vous avez eu le temps de bien lister, justement, dans votre tête, toutes les choses importantes à dire, que vous voulez confronter à la personne, une fois qu'on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on aime, hein, je veux dire, bien sûr. Eh bien, ça évite les oublis, ça minimise les incompréhensions, et surtout, ça me paraît particulièrement important pour tous les sujets qui sont les pratiques sur lesquelles on a des hésitations et les limites. C'est là que ça me paraît le plus important, hein, pour tous les côtés hésitations et limites. Quand vous avez posé les choses sur une feuille de papier ou dans un email, etc., c'est super clair. La personne en face ne pourra pas dire « Ah, j'avais mal entendu, ah... » Et vous, vous pouvez pas dire « Flûte, j'ai oublié de le dire, et maintenant, on s'est mal compris, c'est parti en vrille, et peut-être que ça va mettre en cause votre relation qui venait juste de commencer à se construire. » Ce serait vraiment idiot de tomber dans des problèmes de communication, faute d'avoir clairement posé les choses. Et qu'est-ce qui est plus clair qu'un texte qui est écrit, posé une fois pour toutes en disant « Voilà, je veux pas faire ça, je veux faire ça, je veux bien faire ça, etc. » On négocie, mais au moins c'est super clair. Et ça, ce sera encore beaucoup plus utile si vous êtes dans une démarche de drague et que vous avez des candidats ou des candidates potentielles multiples. Parce que souvent, quand on drague, on essaye à différents endroits en même temps, parce que la plupart du temps, ça marche pas, hein, bien sûr. Et là, c'est encore plus utile de savoir si je suis en train de draguer un tel, une telle et une troisième autre personne, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il ou elle m'avait dit. Avoir quelque chose où c'est marqué clairement, ça aide vraiment. Alors bien sûr, ça pourrait être noté dans un email, etc., mais si on en discute en réel, c'est noté nulle part. Si on en parle au téléphone, c'est noté nulle part. Et si c'est dans des emails, c'est pas évident de retrouver le passé pour la personne machin. Vous voyez, quelque chose d'aussi simple que d'avoir un texte résout tous ces problèmes, et franchement, à mon avis, ça aide beaucoup, beaucoup pour minimiser des problèmes et éviter le pire des problèmes du BDSM, ou un des pires en tout cas, c'est le malentendu. Avec des choses posées qui sont carrées, claires, faciles à utiliser comme référence, ça minimise beaucoup les problèmes. Pas de façon magique, bien entendu, mais ça peut beaucoup aider. Donc vous voyez, je trouve vraiment qu'il y a vraiment énormément de choses positives à l'usage de listes, quel que soit le format que vous allez choisir. Vous avez ce côté pour vous-même ne pas oublier les choses auxquelles vous avez pensé, ça c'est surtout intéressant quand on débute, hein. Vous avez apprendre des choses en regardant les listes des autres, ce qui est très utile. Même moi j'ai découvert plein de choses, hein, en regardant des envies de pratiques sur le site FetLife qui étaient écrites sur des profils d'autres personnes. J'ai découvert des choses parce que je connaissais pas tout et je connais toujours pas tout. Il y a tellement de choses qui existent dans le BDSM, on ne peut pas tout connaître. Ça vous permet de prendre un peu de recul, de réfléchir sur la liste en l'ayant sous les yeux. C'est ça qui m'intéresse le plus, etc. Voire même de mettre en exergue, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça et ça et ça. Si vous avez une liste de 20 éléments, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vous intéressent vraiment, donc vous les surlignez. Ça vous aide quand vous êtes dans une démarche de rencontre, puisque la personne en face et vous pouvez tout de suite savoir au moins si vous avez à peu près des profils compatibles. Ça aide pour ça. Et surtout, donc, hein, vraiment, le point qui me paraît super important, ça aide à minimiser les problèmes d'incompréhension, de mauvaise communication, de dialogue pas clair, les oublis, etc. Et ce, des deux côtés, hein, bien entendu, parce que tout ce que j'ai dit, évidemment, est valide pour les deux personnes, que vous soyez dans une démarche de rencontre ou déjà dans une relation. Alors quand même, je reviens sur ce que j'avais dit dès le départ. Tout ça, c'est pas magique, hein, on est bien d'accord. C'est pas pour autant que ça va résoudre tous les problèmes, ça peut aider. Si je le suggère, c'est parce que je pense sincèrement que ça peut aider de multiples façons que je viens d'essayer de vous expliquer. Je pense aussi que, de toute façon, vous avez rien à perdre en faisant ça. Au pire, la personne en face, ça l'intéresse pas et vous vous en servez pas, c'est pas très grave. Et bien entendu, ça vous garantit rien. Ça vous garantit pas que plus tard, quand vous testerez quelque chose, vous aurez pas une déception peut-être, que la personne en face aura pas une déception, Ça vous garantit pas que si vous voyez que vous êtes entre guillemets compatible, que ça va marcher, etc. Bien sûr, hein, c'est évident, donc vous m'excusez si je dis des évidences. Tout ça, c'est pas magique, mais je pense vraiment quand même que c'est utile, vraiment utile. Et il n'y a pas de raison de s'en priver, ça demande pas forcément beaucoup de temps, quasiment pas d'effort, hein, franchement. Pour moi, ça n'a quasiment que des points positifs, à condition, évidemment, de les utiliser d'une façon positive, et pas, je l'avais exprimé dès le départ, d'arriver devant quelqu'un, de prendre la liste, de la lui mettre sous les yeux et de lui dire « je veux faire ça », parce que là, vous allez avoir des soucis. Mais en dehors de ça, qui existe vraiment, j'en reparlerai dans l'épisode sur la soumination, je peux vous dire que moi aussi, hein, j'ai rencontré des comportements un peu comme ça parfois. Mais passons. En dehors de ça, franchement, j'y vois tellement d'avantages que je pense que c'est quelque chose dont vous devriez pas vous priver. Après, chacun fait comme il veut, c'est pas obligatoire, c'est une suggestion. À vous de voir si ça a du sens dans votre situation, ce qui est probable, et à vous de juger si ce sera vraiment pour vous intéressant ou pas. Tout ça, ça dépend du contexte, comme je le dis toujours. Un dernier point avant de conclure, donc si vous voulez vous lancer dans la création d'une liste, vous pouvez le faire manuellement, sur votre ordinateur, etc. Mais sachez qu'il existe aussi des outils sur internet qui vous permettent de les créer. Typiquement, ils appellent ça soit des générateurs de listes Kink, K-I-N-K, je vous rappelle le Kink c'est un surensemble du BDSM, soit ils appellent ça des checklists BDSM, où il y a des titres équivalents hein, que vous pouvez trouver à droite à gauche. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire une recherche sur ça, chercher kink espace liste par exemple ou BDSM espace liste. Ça pourra vous amener vers des outils si vous avez envie d'explorer cette option. Personnellement, je m'en sers pas, c'est pour ça que je n'ai pas voulu en dire plus. Vous faites une petite recherche, vous verrez, il y a plein de liens, mais là, je vous laisse vraiment la joie de les explorer. Je saurais pas vous dire ceux qui sont bien, ceux qui sont pas bien. Je voulais juste vous signaler en passant que ça existait au cas où. Mais personnellement, moi, je me contente soit d'utiliser la fonctionnalité de fétiche du site social BDSM FetLife, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit tout simplement de mettre tout ça au format texte dans un fichier quelconque sur mon ordinateur. Tout simplement. À vous de voir quelles options vous préférerez, chacun ses goûts. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique Contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'écrire en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.